La plantait hors du camp, à bonne distance, on l'appelait tente de la rencontre, et tout homme qui voulait consulter Adonai devait sortir du camp pour gagner la tente de la rencontre. Et quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce que Moïse soit entré. Au moment où Moïse entrait, la colonne de nuée descendait et se posait à l'entrée de la tente. Et Dieu s'entretenait avec Moïse librement. Et tout le peuple voyait la colonne vivante de nuée qui restait à l'entrée de la tente. Et tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur s'entretenait avec Moïse face à face, comme on s'entretient d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Jésus, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Un jour, Moïse dit à Adonai, Elohim, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. Et Dieu répondit, je vais passer devant toi avec toute ma splendeur. Je prononcerai devant toi mon nom qui est Adonai. Je fais grâce à qui je veux. Je montre ma tendresse à qui je veux. Et il dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, parce qu'on ne peut pas me voir sans mourir. Adonai Elohim ajouta, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. Moïse tailla de nouveau deux tables de pierre, se leva de bon matin, y gravit la montagne du Sinaï, comme Adonai le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et se vint placé auprès de Moïse, face à face. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama Adonai. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération. Supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, parce qu'il punit la faute des pères sur ses fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et quatrième génération. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit, s'il est vrai, Adonai, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés. Et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les clauses de l'Alliance, les 10 mitzvot. Parole du Seigneur, rendons grâce. Le Seigneur fait œuvre de justice. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur, tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, n'est pas pour toujours en procès. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur fait œuvre de justice. N'agis pas envers nous selon nos fautes, ne nous rends pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur fait œuvre de justice. Alléluia. Alléluia. La parole, alléluia, de Dieu est semée en nos cœurs. Alléluia. Heureux qui la reçoit, Alléluia, elle a fait fructifier, Alléluia. Alléluia, ses disciples s'approchèrent et lui disent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus leur répond, celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ton évangile, Seigneur, répande son huile délicieuse, parfumée sur toute l'herbe de la terre, que s'ouvre la chair, l'âme et le sang de tous ceux qui sont affamés de perfection éternelle. Cette bénédiction qui leur permet de voir dès cette terre s'ouvrir devant leurs yeux, les portes de la Jérusalem d'en haut, qui sont ainsi délivrées de toute entrave, pour échapper au filet du chasseur, et être lavées de toute faute au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.
Louange à toi.
Alléluia. Louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia,
louange à toi.
Alléluia, louange à toi. Alléluia, louange à toi. Alléluia. L'ivraie, ce sont les fils de Satan, les fils de mauvais. Les fils du mauvais sont égoïstes. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils se plaignent toujours, ils ne sont jamais satisfaits. Le fruit de la folie nietzschéenne, c'est l'insatisfaction permanente. Les fils de Satan, les enfants de Dieu, sont heureux de tout, de la détresse, de l'angoisse, du dépouillement. Tout est occasion de délivrance du monde pour eux. Les fils de la croix, les fils de Dieu, s'il te plaît. Mais l'ivresse, les fils de Satan, ils n'aiment pas, ils sont égoïstes. Ils ne produisent pas la générosité du don, ils ne surabondent pas. Ils sont les fils de celui qui se cherche lui-même dans la complaisance que Dieu lui a donnée. En lui-même. Il ne cherche pas Dieu qui lui a donné, ni les autres à qui il doit le donner, ni l'éternité dans laquelle il n'est pas encore, et pour laquelle il a été créé. Il s'inquiète des choses de la terre. Et le champ, c'est le monde entier. C'est tous les temps et tous les lieux qui nous appartiennent. Nous sommes les fils de Dieu si nous sommes plantés dans le monde entier. Dans tous les temps, dans tout l'univers. C'est là où nous sommes plantés. Pour rayonner la surabondance du don de Dieu. Sa prodigalité partout. Le monde entier. Et devant nos yeux, le fils de Satan en a devant les yeux que lui-même. Son problème, c'est lui. Et étant donné qu'il a perdu l'unité à cause du manque de bonté, il a non pas un problème qui est lui, mais il a beaucoup de problèmes. Alors, il va faire des agapés. Mais il ne fera pas de pneumatos surnaturel. C'est important de ne pas trop se tâter le pouls. Hein. L'Immaculée elle ne s'est jamais regardée elle-même, jamais. En aspirant, en expirant comme ça, l'Immaculée Conception, on va apprendre le Saint-Esprit. En aspirant, en expirant, comme on disait tout à l'heure, c'était beau les passages qu'on disait tout à l'heure dans le Corinthiens, les pauvres laissent écouler en eux la justice. Lorsque la présence de Saint-Joseph s'écoule en nous et nous appartient, nous habite complètement, c'est plus nous qui vivons quelque part. C'est l'engendrement de l'humanité parfaite, glorifiée comme trône, de l'engendrement éternel de Dieu. Et l'aspiration, responsable agréé de Dieu. C'est quand même autre chose que la recherche d'une sécurité terrestre, en disant ça va. Il y a certaines personnes qui disent mon Dieu, vivement que je sois débarrassé de mon péché de colère, d'impatience, d'impureté, de... Vivement, c'est une aspiration terrestre. Tout le monde aspire à l'impassibilité. La vie chrétienne ne consiste pas à aspirer à l'impassibilité, à la sécurité intérieure. À la bodéité. Au vide de toute imperfection. Ça, c'est un excès dans le vide. C'est les fils de Satan qui font ça, tandis que t'es rempli de Jésus crucifié. D'être envahi par l'union hypostatique, son parfum limpide, nouveau, surabondant, vie éternelle, donne signification à notre corps spirituel de cette terre et nous établit comme fils de l'homme, fils de Dieu. Engendré éternel du Père dans le Christ Jésus notre Seigneur, inscrit dans ce monde comme roi fraternel de l'univers, de tous les temps et de tous les lieux. L'ivresse sont les fils de Satan, sont les fils de Satan. Satan engendre des hommes qui lui sont semblables, qui remuent toujours de tous côtés. Dans l'inutilité, d'un transitoire qui doit de toute façon disparaître. En entendant cela, nous n'apprenons rien, évidemment. Saint Louis-Marie, dans Montfort, dit que le chant, c'est le monde de Marie. Les fils de Dieu sont plantés dans le monde de Marie, la bonne terre. Alors, ils poussent, et c'est la surabondance de Marie, l'intensification des surabondances de Marie que nous sommes lorsque nous vivons du fruit des sacrements. Dans le cinquième, le sixième jour de l'Apocalypse du Seigneur de la terre et du ciel. La pauvreté, c'est le dépouillement de soi, de renoncer à tous ses droits, même les plus élémentaires. Et d'être dépossédé de tout pour les autres, pour l'autre, pour l'ange. L'ange qui nous est le plus proche ne doit pas avoir honte de nous. Il regarde l'expression glorieuse du Saint-Esprit dans la chair du Fils de l'homme. Et s'il nous voit dans l'égoïsme, il a honte. Alors, par charité pour l'ange, par charité pour l'autre, par charité pour l'un, parce que l'ange, c'est l'un accompli, demande un dans le oui originel de Marie, qui est moi-même. Je suis un fils de Dieu, planté dans le champ, et la terre immaculée de la mère de Dieu. Et c'est lui qui a planté. C'est le Fils de l'homme. À chacun de voir qui est l'engendré de l'homme. Là où l'humanité a donné son fruit. L'humanité parfaitement, substantiellement ajustée à Dieu, au Père et aux autres. Sainte Thérèse d'Avila indique que sans Saint Joseph, il n'y a pas de transformation divine surnaturelle. Alors nous aspirons et nous expirons. Le souffle et les énergies du Père dans le Fils de l'homme, dans le champ de Marie, pour devenir les enfants de Dieu. D'une pauvreté totale. Si nous avons des fragilités, mais alléluia. Que nous nous en préoccupions, sûrement pas. dès qu'il surgit en nous une inquiétude. Cette inquiétude est la racine de mon mouvement. Et le premier mouvement, c'est l'inquiétude. Il y a défaut d'arracher l'inquiétude et le péché qui correspond, c'est-à-dire ce refus d'être planté dans l'Immaculée Conception en plénitude par Saint Joseph lui-même pour être l'engendré parfait, du corps parfait, de l'identité parfaite du Christ sur la terre et dans le ciel. À défaut justement de cela, bah, l'inquiétude apparaît parce que ce péché, par omission, si je puis dire, qui est aussi un péché de rétractation, produit l'inquiétude. Et dès qu'on a une inquiétude, c'est un mouvement. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Je suis là. Je suis là pour l'humanité tout entière, la nature humaine tout entière, et Dieu tout entier, les profondeurs des cieux tout entières. N'aie pas peur. Oh, je suis bien petit. Mais je suis grand. Je suis bien fragile. Mais je suis magnifique. J'ai mal, mais c'est délicieux. Et ben, on entend quelquefois. Seigneur, j'ai mal, hein, t'es pas sympa. Hein.
Oui, ça c'est.
Tu vois ça? J'ai mal. Je suis transpercé par les tentations. Alléluia. Alléluia. J'agonise. Et les tentations, les septentrions, l'Aquilon, brûle mes pieds et transperce mes reins. Parce que tous ces éléments, même ceux de l'enfer, m'appartiennent pour la tempérance de la volonté de Dieu qui m'établit fils du Père. Et j'étendrai les mains pour faire le cercle éternel parfait de la bonté du Père et mouvoir les éléments d'en haut et les éléments d'en bas dans la pauvreté du don de tout moi-même pour la générosité éternelle. Alors les anges ont leur place. Ils n'ont pas honte de ma pauvreté. Et l'admiration les fait passer à l'exultation. Et à l'effondrement. Pour l'unité parfaite. Glorifie le Père. Vous avez vu, hein? Elle est belle l'écriture du livre de l'Exode, hein, de... Jésus était là, dans la tente, dans la rencontre, et Jésus était là, dans la tente de la rencontre. On peut dire dans les deux sens, hein, il y avait la tente de la rencontre, mais aussi dans la tente de la rencontre. Et Moïse rentre dans la tente, et la présence messianique du Messie transfiguré, tous les enfants d'Israël l'ont vu tous les jours, même plusieurs fois par jour, pendant 40 ans. Et dès que Jésus apparaissait, le Messie, ils le disaient eux-mêmes, c'est le Messie d'Israël, le Dieu, le Verbe, dans sa lumière, qui se mettait à la porte. Et dès qu'ils voyaient Jésus, tous ceux qui étaient dans la vallée, hein, quand se prosternaient et adoraient Dieu dans le Messie. Les fils d'Israël reconnaissaient Dieu dans le Messie. 40 ans, ils l'ont vu de leurs yeux, sous cette forme de transfiguration messianique. Ils s'en nourrissaient dans l'agneau chaque année. Ils le faisaient surabonder dans leur contemplation. Voilà pourquoi la grande manifestation d'Israël, c'est la transfiguration de chacun des enfants d'Israël, des Pérouchim. L'admirable, l'admirable, l'admirable. Siméon Hanassi. Ça va être là, d'ailleurs aussi parmi les disciples, vous le savez bien, Nathanaël. Combien de fois sous le figuier il avait transpiré de transfiguration messianique qui débordait sur tout ce qu'il enseignait dans la Torah, sortant immédiatement de la bouche du Messie en sa bouche. Jésus lui a dit, tu étais sous le figuier, c'était moi. Mais c'était une attente de la croix. C'était admirable sur la terre, mais c'était la loi de la chair, là où la messianité transfigurait la chair du Messie dans la terre. Mais le Messie n'est pas là pour transfigurer la messianité de la grâce sur la terre, il est là pour magnifier le monde. La transformation de l'union hypostatique déchirée, au-delà du monde magnifique de la résurrection. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la résurrection, c'est la très sainte Trinité. C'est le sacré du Père, c'est cette inspiration, cette spontanéité incréée, substantielle d'amour, de lumière. Nous sommes anéantis. Cet anéantissement dans la fruition, la saveur délicieuse, infinie, substantielle, essentielle d'amour, fait de la très sainte Trinité. Et elle fait la vie des fils de l'homme dans la terre de Marie. Et c'est Saint Joseph qui l'a permis, cette transplantation dans l'assomption du ciel, dans l'émanation du Saint-Esprit en l'Immaculée Conception. Et cette émanation de l'Immaculée Conception jusque dedans de nous, dans le fruit des sacrements, c'est cela qui fera l'apocalypse du Fils de l'homme. Dans la connaissance des voies de Dieu et des œuvres divines. Et ceux qui ne veulent pas, qui se rétractent, sombreront dans d'immenses inquiétudes. Ils s'en mordront la langue de douleur, mais ils resteront détractés dans leur mouvement. Il faut briser le premier mouvement, l'inquiétude. En demandant pardon. Alléluia. C'est à Jésus, au Messie, que Moïse dit, je voudrais voir la face du Père. Piscadonaï Abba, Piscadonaï Abba, chanterai, Piscadonaï Roi Hakadès, Piscadonaï 3 en 1 en 3, je voudrais voir l'intérieur, face à face. Alors, tu vas bien dans le creux du rocher, oui, dans le creux du rocher, je plongerai ta tête. Prends ma main, la droite, je plongerai ta tête dans le creux du rocher, je passerai, comme ça tu ne me verras pas. Parce que quand j'enlèverai ma main, tu me verras de dos. Le creux du rocher dans la creux, dans le creux du rocher, dans l'ouverture béante, dans la résurrection glorieuse, s'ouvre le déchirure du manteau de la résurrection. Et alors c'est dans ce fond, dans cette déchirure du cœur de Jésus ouvert dans l'agneau, que la tête sera plongée pour que je puisse, mais la main comme ça, sera portée sur moi, pour que je sois englouti. Alors le face-à-face de Dieu passe. Dans ma nuque. C'est ça. Extraordinaire. Et du coup, les tables de la loi peuvent être retaillées. Elles ont été brisées. Mais cette fois-ci, elles seront marquées directement par Elohim et le Messie. Chaque lettre. Yod, Vav, Bet, Gimel, sur la table des invitations de Dieu. C'est la deuxième alliance. Moïse a connu le Sacré-Cœur de Jésus, c'est beau ça. Puisque l'ouverture, le creux du rocher, c'est l'ouverture du cœur, dans le corps mort du Messie. Jusque-là, il ne voyait que sa personne dans la lumière de son embrasement messianique. Mais il ne voyait pas son corps. Mais son corps ouvert, il y avait accès. Par la messianité de la personne vivante du Messie, qui l'a plongé dans le corps, et il est pénétré en sa tête, englouti sa contemplation dans le corps déchiré de Jésus. Et là, il pouvait entendre, même voir, et voir vraiment la divinité intérieure de Dieu. Ainsi, Moïse a connu le Sacré-Cœur de Jésus de cette manière. Il savait que c'était le Sacré-Cœur. C'est dans cette pierre-là que s'inscrivent les paroles du Père. Sur la pierre angulaire de notre chair de fils de l'homme et de fils de Dieu, dans le cœur de Marie. C'est magnifique. Le peuple d'Israël porte quelque chose de grand, le portera toujours et le fera centupler à l'infini dans les apôtres des derniers temps. Il est infidèle, il nous casse les pieds. Alléluia. Les Juifs m'ont livré à toi. Et Ponce Pilate répond, est-ce que je suis juif, moi? Si tu ne veux pas être juif, tu ne sera rien. Ce sera un lâche. Si le juif ne rentre pas dans le monde nouveau, c'est à cause de la tiédeur. Et là, un juif ne peut pas embrasser la tiédeur. Et un juif attiédi, c'est un sadducéen. Hérode n'était même pas juif. Ni le roi des juifs d'Israël. Il était iduméen. Est-ce que je suis juif, moi? Bien sûr. Le sang du fils de David et Joseph, c'est mon sang. Le sang de l'Immaculé, c'est mon sang. Le sang d'Abraham, c'est mon sang. Le sang de mon corps spirituel s'écoulant librement en moi venu d'en haut de cette terre. Alors nous disons, moi, je suis juif. Comme dit saint Paul, fils de pharisien. Parce que la transfiguration a engendré dans la croix la gloire du Père. Juif. Et quelque part, vous voyez, il y a quelque chose de grand dans les deux testaments, les deux tables de la loi de Moïse. Parce que nous sommes vraiment plantés dans le monde de Marie. Le champ, c'est le monde entier. Dire que j'en ai rien à cirer de l'antisémitisme. Par contre, je me préoccupe de manière brûlante de la mort des fils d'Abraham dans les fils d'Adam. Je suis juif, moi. Les Kohim ont disparu dans le cinquième sceau de l'Apocalypse. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a plus de Sadducéen et il n'y a plus de Kohim. Il y a le Christ. Jésus est dans la tente et voilà. Quelque part, vous voyez, il faut se sentir très, très profondément béni. Cette bénédiction d'Adam qui a pénétré Abraham, qui a pénétré Isaac. C'est extraordinaire, cette bénédiction d'Adam qui possède la terre et tous les temps futurs. Et qui ouvre cette autorité même sur les perspectives éternelles. Cette bénédiction palpitante et vivante, toute pure, illuminée surnaturellement la foi d'Abraham, et purifiée en lui, victimale en Isaac d'amour, surabondante de fécondité en Jacob. Recelé dans le secret du cœur, Joseph. Alléluia. mesure, voyez, cette bénédiction grandit dans la force messianique du Fils de Dieu. Elle s'illumine surnaturellement dans Abraham, elle devient victimale en Isaac, elle devient surabondante et féconde en Jacob. Elle devient secrète dans la mort de Joseph, recelée en lui. Et assumée en Joachim. Et nous avons commencé cette session dans cette assomption en Joachim des sources de l'Immaculée Conception en nous, avec Joseph. Nous avons commencé ces séjours ensemble avec ça. Nous endormons le soir en disant, mais si je pouvais voir m'engloutir dans cette assomption de la bénédiction primordiale, qui fait naître dans l'Immaculée Conception la force de faire pénétrer eucharistiquement la mort et la résurrection du Sacré-Cœur de Jésus dans une immolation éternelle et au cause d'amour jusqu'à la fin du monde, tandis que lui-même sera ressuscité. C'est lui, ça. Elle est la mère de l'immolation éternelle de Jésus mort sur la croix. Dans sa présence eucharistique, elle est la mère de l'Eucharistie, la mère du sacerdoce. Et c'est à cause de cela qu'à l'ascension, il a pu être prêtre éternel, Jésus dans sa chair glorifiée. Elle est la mère du sacerdoce. S'il n'avait pas été la mère de l'Eucharistie, il ne pourrait pas être la mère du sacerdoce. Cette bénédiction palpitante, il faut qu'on soit béni. Il faut faire oraison. On ne va pas s'installer dans nos inquiétudes. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Installons-nous d'une inquiétude. La vie de l'homme sans Dieu est méprisable. La vie du pauvre est admirable. Je suis fragile, quelle joie! Sans gêne vis-à-vis des autres. Alléluia. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Si tu es toujours dans la mesure, ça va pas. Notre vie s'est établie dans une audace, une pudeur audacieuse, sans mesure, sans excès. C'est pas pareil. C'est pour ça que je ne hausserai pas le ton de ma voix. Parce que c'est un excès qui vient de l'orgueil. Septième degré d'humilité. Stultus in risu exaltat vocem suam. Si on entend ta voix qui s'exalte et qu'on entend plus que les autres, c'est une manifestation stupide de l'orgueil. Stultus in risu exaltat vocem suam. Que tu ne restes plus rien, il ne reste plus que la voix pour t'exalter de manière qu'elle sottise. Quand l'orgueil devient stupide parce qu'il ne reste plus que ça, alors sa voix recueilleuse, comme un tintamarre de casserole, vide. C'est de l'orgueil, ça. C'est pour m'exalter. Regardez-moi, je parle plus, on m'entend plus que les autres. Sans gêne, ça, c'est un excès. Mais si je gêne les autres parce que je suis sans mesure. Dans la folie. Dans la grâce contemplative. Alléluia. Qui pourra juger? Alléluia. C'est pas moi qui pourrais juger. Alléluia. Ça va, amen. Merci, alléluia, alléluia. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est ma joie d'être rien du tout et de laisser mes bêtes être par contre le juge du monde. L'écoulement de la justice paternelle concrète de Dieu qui me donne autorité sur le monde entier. J'étends les mains, je rassemble les éléments et je les magnifie avec moi dans la communion infinie du don. Jésus complète tout ce que nous ne savons pas faire, tout ce que nous ne pouvons pas faire, et c'est nous qui en sommes les dépositaires. Parce que c'est dans la foi toute pure de la nuit obscure de la vie théologale que cette autorité est donnée au corps mystique de l'Église tout entière. Comme c'est facile, comme c'est agréable. Comme c'est bien. Ah, ne t'inquiète pas. Ne t'agite pas. La meilleure part, c'est en faisant les choses grandement, magnanimement, à la grosse, à la plus grande grandeur immensément possible. Librement. Tandis que le fils de Lucifer s'inquiète et se cache dans ses œuvres. Il a honte. Et ses œuvres cachées, il les cache bien. Il aurait honte qu'on vienne les découvrir. Jésus est venu pour un triple jugement, vous savez ça. Il est venu pour juger le monde, il est venu pour juger le péché qui est dans le monde. Il est venu aussi pour condamner le péché.